dans les immigrés, il n'y a pas que des étrangers. Et ça sera aussi l'autre grande nouveauté de la Première Guerre mondiale, c'est l'arrivée des soldats et des travailleurs de l'Empire français, un empire qui est un peu compliqué parce qu'il y a des vieilles colonies comme les Antilles où les gens sont des Français. Et donc, ils lisent des gens à l'Assemblée, etc., et qui sont souvent pas comptés dans les statistiques, et qui d'ailleurs ne viennent pas du tout comme travailleurs à cette époque-là. En revanche, il y a ceux du nouvel Empire français, et puis de l'Algérie, qui a commencé quand même en 1830, et eux, eh bien, ils jouent un rôle très important parmi les... disons... la diversité en région parisienne et dans le reste de la France pendant la Première Guerre mondiale, et un certain nombre d'entre eux, en particulier ceux qui viennent d'Algérie, vont avoir un flux de travail qui va être continu, un va-et-vient pendant toute l'entre-deux-guerres, avec, disons, une surimportance de 3 villes en leur implantation, Marseille, Lyon et surtout Paris. Et donc vous voyez ici, à la sortie des usines Renault en 1920, déjà l'extrême diversité de cette population d'usines qui font très largement appel au travail à la chaîne. Et on peut dire que ça s'est largement développé pendant la Première Guerre mondiale, où on voit bien sur cette photo-là, dans cette usine d'armement, c'est très clair, on a deux catégories de dominés. Les étrangers, ici des Asiatiques, parce qu'on pensait que les Asiatiques étaient faits pour travailler et les Noirs pour aller au front. Et les deuxièmes catégories de dominés, les femmes, et le dominant, c'est-à-dire le mâle national. Hein, donc, et ça, c'est très très significatif de quelque chose qui se reproduit encore dans l'entre-deux-guerres. Alors, premier facteur de diversité, donc, ces populations venues des colonies. Ah oui, j'ai oublié quand même de dire, retour en arrière, que ce sont des Français, en particulier pour les Algériens. Mais ce ne sont pas des Français citoyens, ce sont des sujets français. Et il y a là un statut qui non seulement est différent, est plus discriminant, mais en plus est plus enfermant. Parce que quand on est étranger, on l'a vu, on peut demander la naturalisation. Alors que cette naturalisation, certes, on peut la demander, mais c'est tellement compliqué et ça demande tellement de renoncement. Et puis même quand on renonce à tout, il y a tellement de prévention du côté des services de naturalisation que c'est beaucoup plus difficile de se faire naturaliser citoyen quand on est sujet français que quand on est étranger. Alors, maintenant arrivent en masse des quantités de réfugiés qui viennent de contrées lointaines, de contrées qui sont à la limite de l'Asie, voire carrément l'Asie. Ces réfugiés sont ceux des révolutions et des génocides qui s'articulent à la Première Guerre mondiale. La révolution russe avec véritablement des milliers, ceux qui sont dans les camps en Allemagne, en Pologne, etc., sont plus d'un million. Hein. Et c'est d'ailleurs pour eux qu'on a essayé de trouver cette solution du passeport Nansen à partir du moment où le régime bolchevique a décidé de ne plus les reconnaître comme citoyens. Donc, pour leur donner une citoyenneté ou leur donner du moins une existence par rapport aux nations qui règlent tout, eh bien, le haut commissaire aux réfugiés Nansen a inventé cette formule du passeport qui signe en quelque sorte le destin de ceux que l'on appelle à l'époque les apatrides. Et ces Russes sont extrêmement nombreux à Paris et on va les trouver aussi bien dans des métiers particuliers comme par exemple les chauffeurs de taxi comme ouvriers chez Renault et beaucoup s'installent à Billancourt dans des quartiers qui deviennent carrément des quartiers russes avec le surnom de Billancoursk. De leur côté, les Arméniens, eux, majoritairement arrivent bien sûr par bateau à Marseille. Un certain nombre remontent le long de la vallée du Rhône, où ils sont souvent directement employés d'ailleurs dans des usines textiles. Et puis un certain nombre arrivent à Paris, où ils vont s'installer disséminés dans la capitale, mais aussi dans deux pôles banlieusards. D'une part ici les Moulineaux et d'autre part Alfortville. Et Alfortville, eh ben voilà, ils s'installent dans une île, dans des îles inondables, hein, où ils construisent des cahutes, souvent sur pilotis, et où ils arrivent à reconstruire un territoire, à mettre en place un lieu de culte, une vie associative. Et donc bon, ça c'est très bien raconté par Martine Ovanessian sur l'histoire du lien communautaire. Ces gens qui en fait ont perdu leur terre natale sans espoir de retour, puisque sur les passeports il y a marqué sans retour possible, eh bien, essaient de se reconstruire eux-mêmes en reconstruisant un territoire. Dernier point important, j'ai parlé de Billancourt, ce que je parle d'Alfortville, la banlieue devient un lieu d'implantation très important pour les étrangers. Pourquoi ? Bah parce qu'à Paris, il n'y a pas de place. Parce que les chambres sont toutes petites et donc on va davantage s'installer. Et puis parce qu'on refuse les familles aussi, hein, il faut bien le dire, qu'elles soient françaises ou étrangères. Alors, derrière cette présence nouvelle des exotiques, entre guillemets, et puis des Russes ou des Arméniens, eh bien, il y a aussi un écho culturel du Paris des années folles. Et il y a des modes. Alors, des modes la mode russe, les cabarets russes, mais c'est aussi Diaghilev et les ballets russes. Hein, on est véritablement dans ce qui est à la fois, la... Bon, on va rien dire parce que sinon ça va me prendre un quart d'heure. De l'autre côté... vous mettez les sous-titres tout seul. De l'autre côté, la revue nègre. Alors, 1925, Josephine Baker, les jazzmen américains. Bon, bien entendu, hein, c'est le loisir et on peut dire quelque part que c'est le voyeurisme parisien. Bon, mais il n'y a pas que ça. Hein. Paris, c'est aussi la capitale où on va accueillir les Noirs, où les musiciens, les jazzmen américains vont avoir un espace avec un véritable développement du jazz à Paris, où un Noir va pouvoir s'installer à un café sans être renvoyé comme aux États-Unis. Et donc on retrouve un peu aussi ce côté capitale des libertés, d'autant que la plupart des Africains de l'Empire français qui se trouvent à ce moment-là à Paris sont en général des étudiants, des intellectuels qui vont en fait participer au début du nationalisme noir à l'époque de la négritude. Donc on est véritablement dans toujours ce complexe, hein, ce mélange qui fait la richesse de la présence étrangère à Paris. Alors... Oui, alors du point de vue des statistiques, ça on a déjà vu, ce qui va nous intéresser ici, c'est en fait, là il s'agit encore de Paris et de la Seine banlieue. Et on verrait que j'ai essayé de trouver des statistiques uniquement pour Paris, mais bon, je m'y suis prise trop tard et je ne les ai pas trouvées. Mais en 1931, alors déjà vous voyez, en 1906 il y avait 200 000 étrangers, on en est à 448 000 en 1931. Donc c'est vraiment le doublement que j'avais évoqué tout à l'heure. Les Belges, eh bien, sont en diminution. Pourtant, il y a eu tous les réfugiés belges, hein, dont un certain nombre sont restés pendant la Première Guerre mondiale. Les Allemands ont beaucoup diminué, les Suisses, etc. Bon, et les Italiens, alors, en revanche, c'est, mais beaucoup plus en banlieue qu'à Paris, c'est la grande communauté étrangère en 1931. Hein, vous voyez, on était là, c'est plus que doublé, hein, plus de 100 000 Italiens à Paris et en banlieue. Les Espagnols ont aussi constitué un saut considérable. Et dans la petite Espagne, ou plus exactement le quartier de la Plaine Saint-Denis que je vous montrais tout à l'heure, eh bien, on a véritablement plus de 3000 Espagnols qui sont concentrés. Hein, et c'est vraiment tout à fait considérable. Alors, les Polonais. Les Polonais, c'est vrai qu'à l'époque, on fait venir des Polonais pour travailler dans les mines. Mais les Polonais qu'on trouve en région parisienne, c'est pas cela. Ce sont pour l'essentiel des Juifs polonais qui échappent à la politique de plus en plus antisémite du nouvel État polonais. Beaucoup d'étudiants qui ont des numerus clausus dans les universités en Pologne, etc. Les Russes, alors là, il y a beaucoup plus de vrais Russes, si j'ose dire. Hein. Et de l'autre côté, il y a aussi beaucoup de Juifs, de même pour l'Europe centrale. Et en fait, si on regarde la population de Paris-Ville pendant cette période, eh bien, si on laisse de côté la nationalité et qu'on prend ensemble, on va dire, la tradition religieuse, eh bien, indiscutablement, les Juifs constituent l'ensemble des étrangers les plus nombreux à Paris pendant cette période. Cela dit, c'est vrai que la nationalité joue aussi dans leur identité. Les Turcs, eh bien, les Turcs, c'est les Arméniens, hein, puisque, en fait, ils appartenaient à l'Empire ottoman et que, en 1931, on les recense encore comme Turcs, on les recensera ensuite comme apatrides. Et Africains, là aussi, c'est un fourre-tout pour dire que on a pour l'essentiel des Africains du Nord et pour la plus grande partie des Algériens. Donc voilà un peu du point de vue statistique. Alors vous voyez, ils ne sont que 30 000 et eux, ils sont presque tous en banlieue. Hein, il y en a très peu qui habitent dans Paris, sauf dans des espèces d'hôtels délabrés qui est tenu par un kabyle et où ils sont tous massés, tous manœuvrent. C'est assez singulier aussi dans l'espace parisien de les voir. Alors bien sûr, comme les étrangers sont beaucoup plus nombreux, eh ben ils ont une vie communautaire beaucoup plus visible. D'autant que là-dedans, dans les exilés, on a aussi des intellectuels, etc., qui sont capables d'animer une vie associative. C'est particulièrement vrai pour les Russes, hein, avec eh bien des petites chapelles russes comme ça. Bon, il y a Sainte-Geneviève-des-Voies, mais il y en a aussi du côté de Gagny, un petit peu partout, qui se développent. Les habitudes, alors ça c'est très Europe centrale, hein, des sociétés de gymnastique. Et puis bon, quand les Italiens se marient ou qu'il y a un enterrement, eh ben on peut dire que la rue où se trouve l'église est complètement bouchée et que les autres n'y ont plus accès. Remarquez, c'est bien aussi pour l'église, parce que comme les ouvriers français ne les remplissent pas toujours, et puis les patronages, en fait, ça permet d'avoir du monde, hein, entre les petits Espagnols et les petits Italiens. Bon. Et bon, donc on sent cette présence très très forte et beaucoup plus visible des étrangers, ce qui évidemment n'est pas du goût de tout le monde. Ici, le caricaturiste qui présente la diversité de ce café de Montparnasse la présente à travers des visages grotesques, des nez crochus, etc. Et on voit bien que ce n'est pas une image complaisante. Là, en revanche, on lit toute la diversité peut-être du monde juif, puisque c'est dans le 4e arrondissement, hein, des langues parlées en ce café. Quand ici, cela vient d'un... C'est une caricature d'un journal radical, ça ne dit pas du tout un journal d'extrême droite, qui cherche à montrer de façon amusée l'agacement des Parisiens, hein, avec ce Parisien qui répond à son voisin « Alors vous partez, oui, pour le Canada, j'ai envie d'entendre un peu parler français. Hein ». Donc, alors, derrière ce petit visage à peine affleuré moucheté, il y a quand même une dimension très importante qui prend de la place de plus en plus dans la presse, c'est une formule qui est la formule de l'étranger indésirable. De plus en plus, quand on va dire étranger, on va ajouter indésirable. Et derrière cet indésirable, il n'y a pas tellement une question culturelle. C'est vrai que ça joue, mais enfin bon, c'est plutôt un peu de cet ordre-là, de ce que l'on a sur la caricature. Ce qui joue beaucoup... ça va être beaucoup plus fort apparaître dans les années 30. Ce qui joue beaucoup, c'est l'idée de l'étranger subversif. Parce que tous ces étrangers viennent de pays qui ont des histoires, qui sont des histoires sanglantes, des histoires de dictature, des histoires où l'enjeu politique, dans ce monde où, avec la naissance du bolchevisme, il y a un développement considérable des partis communistes, du mouvement prolétaire, etc. Derrière tout cela, il y a donc, le fascisme qui s'est installé en Italie, toute la question de l'antifascisme. Donc, on peut dire que c'est une période à haute tension politique. Et dans cette haute tension politique, eh bien, il y a bien sûr des inquiétudes des autorités françaises et d'une partie des Français, mais il y a aussi, du côté des étrangers, des enjeux, des assassinats permanents, des luttes très importantes, une participation des étrangers aux luttes collectives. Et donc, il y a cette idée que les étrangers viennent semer le désordre chez nous. Et cette dimension compte pour beaucoup dans l'idée de l'étranger indésirable. Mais en même temps, Et ça, bon, je vais en parler beaucoup plus avec les Italiens. C'est vrai que ce qui se passe à ce moment-là dans la région parisienne, alors en banlieue, mais aussi dans les quartiers populaires parisiens, c'est la montée en puissance d'une culture ouvrière. D'une culture ouvrière qui est, on peut dire, une culture dominante à l'époque, qui va trouver bien sûr son apothéose avec le Front populaire, mais qui en fait est faite de toute une série de pratiques et aussi d'un engagement militant pour une minorité, mais pour une minorité qui joue un rôle d'entraînement. Et cette minorité, elle est très attractive pour un certain nombre d'étrangers. Et donc là, on voit un café italien à Montreuil avec la même famille qui organise des goguettes dans la période de campagne du Front populaire. Et puis, cette tradition des bals populaires où, effectivement, l'accordéon italien joue un rôle important, mais où il n'y a pas que des Italiens. Il y a un grand mélange, et un grand mélange en particulier du côté des jeunesses ouvrières. Alors les jeunesses, c'est un peu les enfants qui se retrouvent ensemble à l'école élémentaire, parce qu'à l'époque, la question de l'enjeu scolaire n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui, et l'école est séparée, mais là encore j'en parlerai avec les Italiens. Mais la jeunesse, elle est aussi du côté des migrants eux-mêmes, parce que les immigrants, ils sont très jeunes, hein, ils ont moins de 20 ans pour beaucoup d'entre eux. Et donc, on a là quelque chose qui se fait dans une société qui trouve ses marques, on peut dire. Alors bon, il ne faut pas croire que c'est le monde des bisounours, hein, et la violence de la crise xénophobe qui suit montre bien que ce n'est pas le cas. Mais il ne faut pas négliger cette dimension où en plus le Parti communiste joue un rôle très important parce que dans les communes, les municipalités qu'il va gérer, eh bien, il y a une grande bienveillance vis-à-vis des étrangers, juste retour des choses parce que les étrangers les aident dans la campagne, mais on va par exemple distribuer les allocations de chômage qui à l'époque dépendent des communes aux étrangers, alors que normalement c'est réservé aux Français. Donc il y a véritablement cette volonté de prise en compte sociale qui est très importante et qui fait que les choses sont très particulières dans cette période. Mais, et c'est là bien entendu que les choses les pires apparaissent, avec la crise des années 30, grande crise du chômage, marche de la faim, etc., apparaît à nouveau une autre dimension de l'étranger indésirable, c'est l'étranger qui prend trop de place dans l'emploi. Alors, je ne vais pas faire une dissertation sur le fait que ce n'est pas les mêmes emplois, etc. Toujours est-il que la loi du 10 août 1932, votée à l'unanimité, y compris par le Parti communiste, décide que dans l'industrie, il va y avoir une limitation, un contingentement du nombre des étrangers. Ce contingentement se fera branche par branche. C'est pour ça que la loi de 1932, c'est une loi cadre et qu'ensuite les décrets vont tomber branche par branche. Cette loi porte le nom poétique de loi sur les étrangers en surnombre dans l'économie nationale. Je vous rappelle que la carte d'identité de travailleur est attachée au travail. C'est-à-dire que si vous perdez votre travail, vous n'avez plus de carte. Et si vous n'avez plus de carte, vous êtes expulsable. D'où, soit vous partez tout seul chez vous, hein, vous reprenez la frontière, soit on vous pousse avec des rapatriements collectifs par des convois, ça a été le cas des Polonais, soit on appelle ça des refoulements, soit vous essayez d'y échapper, puis vous vous cachez. Vous avez encore une possibilité, c'est d'aller à la campagne, parce que dans les campagnes, il y a toujours un peu de quoi faire comme ouvrier agricole. Mais si la xénophobie ouvrière est à nouveau très forte, ce qui caractérise la période, c'est la montée en puissance de la xénophobie des classes moyennes. Ces classes moyennes se retrouvent... Alors à Paris, ça joue un rôle très important, parce qu'à Paris, à la fois, il y a trois catégories, les médecins, les avocats et les commerçants. Et commerçants et artisans. Alors, les commerçants et artisans, c'est ceux qui ont le moins de pouvoir. Hein, puisque, donc, en 1935, il y a une première loi qui oblige les étrangers à déposer une demande d'autorisation pour s'installer comme commerçant ou artisan. Et dans les cas de crise, souvent, les gens se mettent à un petit commerce pour essayer de trouver une compensation. Et donc, là, ça devient illégal, donc très difficile pour les étrangers. Mais les commerçants devront s'y prendre à deux fois parce que, encore une fois, ils ne sont pas suffisamment nombreux. En revanche, les médecins et les avocats, on peut dire qu'il y a pratiquement que à la Chambre des députés. Donc c'est très facile de voter des lois. Et on voit là les étudiants en médecine qui protestent contre la concurrence que leur font les étudiants juifs en particulier. Métèque, c'est ça que ça veut dire, contre l'invasion métèque, qui viennent pour beaucoup de Pologne, et puis à partir de 1933, d'Allemagne, et des bannis de Hitler. Hein, donc, on a un très très fort antisémitisme qui se développe dans ces milieux de la médecine et du barreau, et qui, bien sûr, trouve un écho dans le développement de l'extrême droite, à ce moment-là, dans la rue, hein, après le 6 février, enfin autour du 6 février 34, etc.